De retour de l'assemblée plénière de printemps, l'évêque de Rodez et Vabre en dresse le bilan.
Bonjour Monseigneur Luc Meyer.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes l'évêque de Rodez et Vabre en Aveyron. Merci de nous donner ce temps ce matin. Vous étiez la semaine dernière à Lourdes pour la traditionnelle assemblée plénière des évêques. Quelle impression générale retirez-vous de cette assemblée de printemps, Monseigneur?
C'était la sixième assemblée plénière à laquelle je
Ah oui.
participais. Il y a toujours une grande qualité dans la préparation, dans les échanges. Il y a eu des dossiers importants et variés qui ont été abordés.
Oui, nous allons les
Et
parcourir.
cette session, elle a été marquée par plusieurs éléments, mais je dirais quand même que la fraternité et la confiance des évêques entre eux a beaucoup joué pour la qualité de la réflexion et les avancées des différents dossiers. C'est une chose qui m'a beaucoup marqué dès la première session et qui se confirme au bout de 3 ans.
Alors, fraternité nécessaire pour ce premier thème que vous avez dû, enfin ce premier sujet que vous avez travaillé, puisque l'Assemblée plénière des évêques de France a été précédée de 2 jours de réflexion et d'échanges sur les abus sexuels dans l'Église. Elle rassemblait près de 300 participants, dont des personnes victimes, des laïcs engagés, des évêques. Quelles sont les avancées notables que vous avez pu retenir depuis la remise du rapport de la CIAS, cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église?
Alors, il y a eu une présentation du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des groupes de travail qui avaient été mis en place après la réédition du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et ça a permis de regarder l'ensemble du dispositif. Alors, il y a eu des progrès partout, mais le chemin n'est pas terminé.
Donc les progrès, ils sont notamment dans les cellules d'écoute diocésaines, le discernement d'entrée au séminaire, par exemple.
Oui, et aussi l'accompagnement des évêques.
L'accompagnement des
Ici,
évêques.
il y a eu beaucoup de choses pour accompagner les évêques. Il y a même un évêque qui a dit dans une table ronde, on n'est pas préparé à affronter cela. Et il est clair que ce qui a été mis en place a doté les évêques d'un accompagnement qui permet qu'ils effectuent mieux leur ministère sur ce point, en écoutant d'abord et en mettant toujours la priorité d'abord à la parole des victimes.
Et autre point positif, c'est cette généralisation des protocoles entre les diocèses et les parquets.
Alors c'est un point positif, c'est probablement pas le point central,
d'accord,
puisque quand il n'y a pas de protocole, malgré tout, les choses suivent leur cours. On n'a pas beaucoup parlé des protocoles, on a plus parlé de l'accompagnement des personnes victimes, et d'ailleurs, dans chacune des tables rondes, il y avait toujours au moins une victime qui a pu prendre la parole.
Qu'est-ce qui reste à faire, Monseigneur, pour ces difficultés, ces abus sexuels dans l'Église?
Je crois que nous sommes sortis en grande partie du déni, déni qui pouvait aller très loin, puisque je pense que, en fait, la souffrance des victimes, elle est incommensurable. Et les atteintes qui sont portées à la dignité, à l'intégrité des personnes, elles créent un stress traumatique très très fort, et c'est une atteinte véritable, un empêchement d'être, un empêchement de vivre. Alors ça, je crois que ça a été bien intégré, et que à partir de cette parole, à partir de ce savoir détenu par les victimes, eh bien, il y a tout ce qui s'est mis en place. Alors, qu'est-ce qui resterait à avancer? Probablement dans l'accompagnement des causes, c'est-à-dire le discernement des causes des violences sexuelles dans l'Église. Là, il y a encore un travail probablement à faire. On a bien travaillé sur l'accompagnement spirituel, la confession. Il y a eu des fiches qui ont été écrites, qui sont proposées. Il faut évidemment maintenant qu'elle soit partagée,
expliquée, mettre en œuvre,
approfondie, mise en œuvre dans nos diocèses.
Vous étiez aussi, avec tous les évêques de la Conférence des évêques de France, appelé à voter sur un dispositif d'accompagnement pour les victimes majeures. Qu'est-ce qu'il prévoit exactement?
Alors, ce dispositif d'accompagnement s'intègre à l'ensemble d'un dispositif qui a été mis en place. Il prévoit la possibilité d'une médiation qui permet à chaque évêque, s'il le souhaite, s'il en est d'accord, si la personne victime est en est d'accord, de pouvoir engager un dialogue dans la discrétion pour pouvoir écouter jusqu'au bout la victime quand, par exemple, les faits sont prescrits ou quand ils ne sont pas suffisamment caractérisés. Et là, on a vraiment une qualité d'écoute qui est mise en place, qui permet d'aller, si j'ose dire, au-delà, à côté de ce que prévoit le droit, et de ne pas simplement se replier sur le droit, mais de faire vraiment honneur jusqu'au bout à ce qui peut être entendu.
Oui, donc un chemin encore à parcourir, mais on sent une détermination et effectivement, vous le disiez, les victimes qui ont vécu ce stress traumatique, à l'occasion de ces abus sont aujourd'hui, on peut l'espérer, entendues et écoutées par l'Église.
Alors oui, et puis on s'est quand même dit, puisqu'on a quand même eu des personnes qui ont pris la parole dans ces tables rondes, il y a le temps des victimes. Alors c'est un peu le temps de l'urgence, hein, quand on ne dort plus, quand on a des choses qui remontent, et c'est ce temps-là, on essaye de s'adapter au mieux, et c'est pas toujours simple, parce qu'il y a le temps ecclésial, et donc il y a une sorte
de décalage peut-être
dans une grosse institution, et on a essayé depuis 4 ans de faire que ce temps ecclésial puisse s'accélérer pour rejoindre le temps des victimes. Et puis il y a le temps de la société, alors qu'il y a un temps beaucoup plus médiatique, et ces différents télescopages de temps sont au cœur d'un ajustement qu'on essaye de faire en mettant toutes nos énergies pour bien accompagner, bien écouter.
Alors, c'est amusant, Monseigneur Luc Meillard, puisque vous parlez de décalage de temps, et on a l'impression que c'est un petit peu la même chose avec l'enseignement catholique. Les évêques ont élu à Lourdes, comme secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost. Il y a quand même des sujets qui bousculent l'enseignement catholique, hein, la lutte contre les violences, les critiques à l'égard du financement de ces établissements, mais surtout du projet éducatif et pastoral, la définition du caractère propre, il faut préciser qu'il y a quand même 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans les établissements catholiques pour l'année 2023-2024. Qu'est-ce que les évêques ont dit de cet enseignement catholique et notamment à travers cette nouvelle nomination?
Alors je pense que les évêques sont profondément attachés à l'enseignement catholique. Ils ont bien conscience que la cellule de base de l'enseignement catholique, c'est l'établissement. C'est une grande richesse, ça laisse une grande liberté, et en même temps, on voit bien aujourd'hui que les défis qui sont devant nous font que, même si l'établissement est la cellule de base de l'enseignement catholique, il va falloir que toute l'institution puisse se mobiliser pour une lutte concertée, une lutte déterminée par rapport à tout ce qui a pu être abus ou tout ce qui a pu être déviant. Alors, il y a un certain nombre d'établissements aujourd'hui qui sont sous le feu des médias. Ce ne sont pas les médias qui fabriquent ce feu, c'est parce qu'il y a véritablement, dans l'histoire, il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, des grandes souffrances que nous avons entendues. On a même reçu et écouté des témoins de Bétharram.
Et oui, ça, c'est
donc,
dans
il y a vraiment
région.
Besoin que l'institution se mobilise et trouve les moyens en son sein, eh bien, de mieux encadrer notamment les internats.
Et puis, il y a aussi cette attente dans l'annonce de la foi, puisqu'on voit bien qu'avec le nombre des catéchumènes, il y a beaucoup d'adolescents. Donc là, l'enseignement catholique est un lieu propice pour l'annonce de la foi.
Alors, l'enseignement catholique constitue une surface de contact avec des jeunes et avec leurs familles, à l'intérieur desquels, en vertu du caractère propre, ben, il est possible de parler de la foi dans le respect de la liberté des personnes. Et donc c'est vraiment pour les évêques un endroit très important d'expression aussi de la liberté religieuse, hein, c'est sûr.
Oui.
Là-dessus, il y a tout un travail qui peut se faire et qui se fait déjà dans le réseau de l'enseignement catholique.
Bien sûr. Je voulais vous poser une autre question sur un autre sujet que vous avez travaillé, Monseigneur Luc Meillard, lors de cette assemblée plénière de printemps. C'est sur l'intelligence artificielle. Vous avez notamment réfléchi sur l'existence, la possibilité de faire exister une intelligence artificielle générative catholique. Quels sont les défis aujourd'hui que cette intelligence artificielle pose à l'annonce de l'Évangile, à sa nature, ses moyens et ses modalités?
C'est vrai que nous avons eu une séquence d'une heure et demie à peu près sur cette question, qui avait été très bien préparée, avec un dossier de plus de 200 pages que nous avions reçu. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de productions sur l'intelligence artificielle.
Oui, on en parle beaucoup.
Et pratiquement, il faut les dater par mois, puisque ces processus informatiques et algorithmiques acquièrent de plus en plus de puissance et qu'en quelques mois, des choses qui étaient inconcevables le deviennent. Alors on s'est dit que le principal enjeu, c'était l'accès à la connaissance religieuse et puis la transformation du rôle des médias. Avant l'essor des réseaux sociaux, il y avait un quasi-monopole des médias traditionnels et on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on sait aussi que l'intelligence artificielle peut contourner, entre guillemets, les médias traditionnels. Elle peut même lire les journaux à la place des médias et en faire un résumé. Alors l'essor des intelligences artificielles, leurs implications, c'est qu'elles peuvent prendre la parole à notre sujet, parler de nous, parler de ce qui nous fait vivre, et qu'il est nécessaire évidemment qu'elles soient bien alimentées avec une bonne base de données, un logiciel adapté pour des réponses, si j'ose dire, adaptées. Alors ici, il y a toute une réflexion sur les enjeux majeurs eh bien, de francophonie, d'écuménisme, dans la création d'un corpus documentaire numérique qui pourrait aboutir à une intelligence artificielle proposée par l'Église catholique, peut-être avec une perspective écuménique, dont on soit
garant finalement.
Conscient, qu'on soit garant qu'elle rassemble une documentation qui n'est peut-être pas partagée par toutes les ressources des autres intelligences artificielles.
Oui, oui, donc ça permettrait effectivement d'avoir une unité, un peu comme l'a fait il y a maintenant quelques années le catéchisme de l'Église catholique.
Oui, mais là, en même temps, comme il y a du débat, il y a aussi une façon qui a été rappelée par l'un ou l'autre, eh bien, face à une intelligence artificielle, il y a une façon de poser des questions.
Ah oui,
et donc ici, on voit bien aussi que tout n'est pas dans la base de données d'une intelligence artificielle ou sa surface de consultation, elle est aussi dans une forme d'éducation de celui qui va utiliser une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, sa façon de poser la question.
Alors, je précise que pendant cette assemblée plénière de printemps à Lourdes, il y a eu des nominations. Donc, le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, a été nommé président de la Conférence des évêques de France. Vous-même, Monseigneur Luc Meyer, avez été désigné pour faire le lien avec la province de Toulouse et le conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Et enfin, Monseigneur Jean-Pierre, évêque auxiliaire de Toulouse, et Monseigneur Alain Guélec, évêque de Montauban, ont été élus à la commission doctrinale. Voilà toutes ces nouveautés pour cette assemblée plénière de printemps. Merci beaucoup, Monseigneur Luc Meyer, d'en avoir dressé le bilan ce matin.
Voilà, bonne continuation à vous.
Merci, vous êtes l'évêque de Rodez et Vabre et c'était votre grand entretien sur Radio Présence.